Maudit que je m'endors. Je pense que j'ai besoin d'un café. Téléphone intelligent, dis-moi où est le Tim Horton le plus proche.
Fuck le Tim Horton.
Quoi?
Va donc au Salon G à la place au Salon G. Le café est vraiment bon, tu vas l'apprécier. C'est pas juste un jus de boîte que tu bois en attendant qu'il soit l'heure de tomber dans le jean à cochon.
Situé au niveau métro du pavillon Aquin, le Salon G, c'est la place pour te sustenter.
Bonne nouvelle, Let's Eat Grandma figure au palmarès de choc.ca. Et devinez quoi? La formation donne son tout premier spectacle au Canada le 23 septembre au bar Le Ritz PDB. Précédez les tendances et assistez ici même dans le cadre du très cool festival Pop Montréal à la prestation de ce groupe dont tout le monde parlera sous peu. Pour obtenir des billets ou plus de renseignements, allez au popmontréal.com. Hey! Êtes-vous fan du groupe The Lumineers? Le 23 septembre, notre vedette locale Jesse McCormack jouera au Rialto Hall dans le cadre du lancement de son nouveau EP After the Glow, paru sur Secret City Records. Une prestation dont les billets s'envoleront très vite à coup sûr. Venez le voir avant qu'il ne se produise à guichet fermé au Festival de Jazz. Une chance unique de vivre l'expérience underground de Pop Montréal. Pour obtenir des billets et plus de renseignements, rendez-vous sur le site popmontréal.com. La célèbre foire aux puces pop revient en force du 23 au 25 septembre à l'église Saint-Denis, au 454 avenue Laurier-Ouest. Venez y admirer une vaste sélection de produits artisanaux faits à la main, y compris des bijoux, de la sauce piquante, des savons et des vêtements. Arrivez tôt pour magasiner et soutenir les artisans d'ici. Pour plus d'infos, consultez le site popmontréal.com.
Croyez-vous que les médias ont une part de responsabilité dans votre défaite?
Pas du tout. Les médias ont toujours raison. Les médias ont toujours raison.
Bonjour à tous, bienvenue à cette toute nouvelle émission de La Faute aux médias en compagnie de votre animateur Émilien Roscanou. Ce soir à l'émission, nous avons Véronique Forêt, Charles Lemieux ainsi que Camila Rodriguez CA aux chroniques. Bonsoir à tous.
Bonsoir. Bonsoir.
Salut.
Donc, ce soir, on vous parle des théories du complot. On vous parle également de Facebook. Mais tout ça a commencé quand on a eu les commémorations du 11 septembre 2001. On voulait revenir un peu plus dans le sujet des théories du complot. Donc, Charles, toi, ton sujet, c'est en fait les révélations du 11 septembre.
Certainement, Émilien. Comme vous le savez tous, probablement, ça fait 15 ans hier que les États-Unis ont été attaqués à New York. La grande question des médias depuis 15 ans, et vous, où étiez-vous le 11 septembre 2001?
On s'en souvient tous, bien entendu.
Ouais, certainement. Personnellement, j'avais 6 ans en 2001. C'est une période un peu floue de ma vie. J'ai de la misère à me souvenir de ce que j'ai fait la semaine passée. Donc, 15 ans plus tôt, on peut tout de suite oublier ça.
Ton enfance est très obscure.
C'est obscur.
À Laval.
Obscur.
Il fallait pas le dire.
OK, je vais continuer. Mais bref, moi, c'est pas le 11 septembre 2001 qui a été un grand facteur de remise en question du monde et tout. Mes éliminations du 11 septembre, je les ai eues un peu plus tard. Le 11 septembre 2001 m'a pas marqué parce que l'ordre mondial était remis en question. Moi, j'ai découvert quelques années plus tard les théories de la conspiration, des théories du complot. Faut dire que peu après cette période-là, je découvrais l'Internet, je commençais à savoir lire, je passais des jours à lire des théories conspirationnistes. Depuis, j'en ai vu plusieurs, les vaccins qui causent l'autisme, l'alunissage qui a jamais eu lieu, les Illuminati, les hommes lézards, les francs-maçons, et plus récemment, un article tout frais de ce matin, Hillary Clinton serait gravement malade et aurait une doublure qui ferait ses apparitions publiques pour elle.
Aïe, incroyable. Puis ça vient d'où toutes ces théories-là, Charles?
Eh bien, Emilien, il y a plusieurs causes. Selon Emmanuel Taïb, qui est professeur de sciences politiques, qui écrit pour l'Institut national audiovisuel de France, il parle d'un message alternatif qui est repris par des gens ayant peu confiance au message officiel. Il note aussi que dans la très grande majorité des cas, il s'agit d'un très mauvais fact-checking, pour utiliser ces mots. Dans le cas des vaccins qui sont dangereux, par exemple, il s'agit d'une vieille étude qui a été discréditée il y a plusieurs années, qui faisait un lien entre la vaccination et l'autisme. Normand Baillargeon, qui est très bien connu des gens dans le BCPS, mais des autres peut-être moins.
Le bac en communication politique et société, rappelons-le.
Oui, désolé. C'est un professeur de philosophie québécois reconnu pour sa pensée critique. Il met l'emphase sur le fait que le message officiel, souvent, est pas complet. Il note aussi que c'est pas mentionné par les médias et les agences officielles. C'est en général loin d'être très important. Pour le cas du 11 septembre, par exemple, la fameuse tour WTC-7, excusez-moi, qui est tombée alors qu'elle n'avait pas été touchée par les avions. Les gens pour les théories ont fait « Oh mon Dieu, quelqu'un a mis des bombes là-dedans. »
Oui, mais c'est clair qu'ils ont mis des bombes, Charles. Non,
c'est
mais
clair,
je te dis,
oui. Oui, il y avait des bombes.
J'étais là, je l'ai vu.
Il y avait des bombes, mais il y avait une petite tourette sur le toit qui a reçu un débris qui est pogné en feu et finalement, elle a tombé, ce qui a fait tomber le bâtiment au complet.
C'est ce qu'ils disent.
En tout cas, selon les versions officielles. Selon Vincent Bouchard, qui est candidat au doctorat en politique américaine à l'UQAM, ces théories complotistes sont dangereuses, surtout parce qu'elles nous éloignent des vrais enjeux. Il dit que les attentats du 11 septembre démontrent plutôt une faillite de l'appareil de renseignement américain. Ensuite, l'erreur d'intervenir en Irak sous de faux prétextes, de faux liens avec Al-Qaïda. Mais la vraie question ici, est-ce que c'est la faute aux médias? Oui, un peu. En donnant pas toutes les informations officielles, elle donne des raisons à certains de croire qu'on leur cache des choses. De plus, en retransmettant ces théories, comme celle du double de Hillary Clinton qui a été retransmis par le journal Métro ce matin, ils alimentent les gens en fausseté sans donner de réponse claire. Il n'y avait aucune réponse dans cet article-là. Il y avait juste « les gens sur Internet disent ça ».
Mais le fait de relayer les informations dans les grands médias,
c'est ça leur donne une crédibilité. Exact.
Des propos... farfelu.
C'est ça. Et c'est bien important d'avoir un esprit critique, mais faut faire bien attention où est-ce qu'on trouve ces réponses. Comme le dirait l'inspecteur Viral, qui écrit aussi pour le journal Métro, partager ces conspirations-là, ça ne fait que nous cacher de la réalité et ça nous détourne des vraies questions, à savoir pourquoi c'est arrivé et qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça n'arrive plus. Sur ce, je fais comme Obama dans un de ses discours et je laisse tomber mon microphone.
Merci beaucoup, Charles.
Pas de problème.
Bon, maintenant, on a entendu Charles nous parler des théories du complot. Maintenant, moi et Camilla, on va un peu plus démystifier ce qu'est une théorie du complot. Donc, donner un peu plus de détails, voir pourquoi c'est si populaire. Donc, vraiment, la théorie du complot, c'est quand on donne une vision d'une histoire qui est en fait perçue comme un produit d'une action ou d'un groupe qui agit dans l'ombre. T'as parlé des Illuminati, t'as parlé des hommes lézards, tu savais qu'Obama était et l'un et l'autre et qu'en plus il était l'antéchrist.
Je suis d'accord avec toi.
Puis bon, il l'a déjà confessé là à Fox News. D'ailleurs, on sait tous que c'est Lyndon Baines Johnson qui a commandé l'assassinat de JFK pour devenir président lui-même, aidé par le complexe militaro-industriel, la mafia et Fidel Castro. Et que Neil Armstrong, tu l'as mentionné tout à l'heure, a marché sur une lune en carton dans des...
Bon. Oui, et j'aimerais rappeler que c'est Kubrick qui a produit tout ça. C'est Stanley Kubrick.
Bien, évidemment. Stanley Kubrick, Neil Armstrong, de très bons amis. Donc, ben, récemment, justement, il y a beaucoup de théories du complot qui sont très populaires dans les grands médias états-uniens. Puis, notre démagogue préféré ici à la faute aux médias, vous le connaissez très bien et on en parle peut-être un peu trop souvent. Mais oui, ce cher Donald Trump est un féru de ces théories du complot. Faut croire qu'il s'accorde avec son auditoire. Mais il aime beaucoup les théories du complot sur son adversaire Hillary Clinton. Récemment, vous avez vu dans les médias le malaise qu'a vécu Hillary Clinton. Bon, aux commémorations du 11 septembre, tu nous en as parlé, Charles.
Effectivement.
Elle titube un peu avant d'entrer dans sa fourgonnette. Ben, évidemment, qu'est-ce qu'on pense? Ben, on pense qu'elle est atteinte de toutes sortes de maladies parce que on voit dans les médias depuis des semaines plein de pseudo-médecins, des médecins, plein de gens qui se prononcent sur son état de santé. On sait qu'elle n'est pas jeune, Hillary Clinton. C'est sûr que, bon, elle peut avoir des problèmes de santé qu'on ne connaît pas. Mais, bon, il y en a qui disent qu'elle a une liste super impressionnante de maladies, qu'elle serait atteinte du Parkinson, qu'elle aurait un cœur artificiel, en tout cas, des affaires hyper farfelues. Puis Trump a toujours été assez méchant par rapport à ça. Il a toujours relayé un peu le sujet.
Mais cette semaine, il a été gentil avec elle. En fait, il a souhaité prompt rétablissement. Donc, il s'améliore.
Il s'améliore, mais c'est clair qu'il y a un objectif caché derrière ça. Il veut avoir l'air plus présidentiel. Mais ce qui est surtout sidérant dans tout ça, c'est que les théories du complot sont extrêmement populaires. Il y a des sondages qui sont faits aux États-Unis. Puis on pense, une majorité d'Américains croient à certaines théories du complot quand on sait que, bon, finalement, elles n'ont jamais eu lieu ou les faits disent le contraire.
Oui, mais les théories du complot dont on parle en ce moment sont toutes assez farfelues. Mais à mon sens, pas croire à la version officielle, là, c'est pas...
C'est une toute autre chose.
Oui, mais ouais. c'est faire preuve, à mon sens, d'un esprit critique, oui. Puis, laissez-moi ramener la latino-américaine en moi pour vous rappeler que le fait que les États-Unis aient... fermenter des coups d'État en Amérique du Sud durant la deuxième moitié du 20e siècle était longtemps considéré comme...
Oui, et au Moyen-Orient.
Oui, entre autres, mais oui. Là, laisse-moi parler de ce que je connais. était considéré comme des théories du complot, puis l'est encore, puis il y a beaucoup de gens à qui je raconte ça. Je dis, bon, les États-Unis, ils ont aidé l'armée à faire des coups d'État. Donc moi, je parle du cas spécifique du Chili souvent, puis les gens me regardent un petit peu comme, on va la laisser parler, mais...
Alors que ce sont des faits avérés.
Exactement.
Là.
Mais non, c'est vrai.
Non, mais c'est absolument vrai. Mais oui. La version officielle, c'est quelque chose de lourd quand même. C'est quelque chose qui a beaucoup de poids. C'est qu'est-ce qui est vraiment transmis. C'est le message qui est transmis par le gouvernement.
Puis l'histoire est toujours écrite par les vainqueurs, donc il y a toujours quelque chose quelque part qui nous dit « Ah, mais peut-être qu'il y a autre chose, peut-être qu'on me cache quelque chose. »
Absolument.
Surtout dans des cas où c'est des sujets extrêmement graves, comme le 11 septembre, où ça a amené à des guerres, à l'envahissement de certains pays.
Exactement. Donc, ils ont eu des impacts qui, étrangement, semblaient assez bien avantager certains groupes, comme Bush, disons. Mais dans les médias, les groupes utilisent justement cette construction du récit-là pour donner un sens ou un angle à quelque chose. Puis là, je m'explique. Par exemple, pendant les manifestations de la session dernière, les manifestants ici à l'UQAM ont saupoudré l'école au complet avec des brillants. Là, pendant des semaines, on en trouvait partout et tous ceux qui ont eu le malheur d'en recevoir dans leurs cheveux, puis là, je parle d'expérience, s'en souviendront longtemps. Comme toute manifestation, c'est la lecture qu'on en fait qui change la vision qu'on en a. Donc, objectivement, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que des jeunes ont lancé des brillants dans l'école. Point. Ce que l'administration en dira, par contre, c'est que des étudiants ont nui à l'image de l'UQAM, parce qu'il faut le dire, hein, le tout s'est déroulé en pleine journée de la rentrée. Mais, par exemple, ce que pourraient en dire des, je sais pas, des médias extraordinaires d'une grande qualité comme LCN ou TVA diraient que, bon, mais c'est des carrés rouges, puis peut-être que des gens de Radio X, ils mettaient la main sur l'histoire, dirait même que on lançait les brillants à coups de gratteux de guitare. Là. Puis le sens, tu sais, on rit, mais le message qu'on transmet est extrêmement important. On peut utiliser des adjectifs qui changent la vision puis la perception de ce que les gens ont du fait, parce que personne n'était là, je veux dire, en tout cas, il y avait beaucoup de gens, je veux dire, mais les gens qui entendent cette histoire-là relatée dans les médias n'étaient pas là, donc leur seul moyen d'être informés, c'est de vraiment écouter qu'est-ce qui se passe. Puis si on dit que c'est des gratteux de guitare, mais nécessairement, la connotation négative va venir, puis va teinter ce qui se passe. Même chose pour la version officielle. On essaie de construire un récit. Le récit, il y a deux avions qui ont... plusieurs avions. Disons, il y a eu des attentats aux États-Unis. Il y a eu des avions qui ont foncé dans plusieurs divers bâtiments. Hein? Mais ça, c'est le fait objectif. Maintenant, du moment qu'on commence à appeler ça des attentats, qu'on appelle ça du terrorisme, et puis même chose pour qu'est-ce qui se passe en ce moment, là, c'est extrêmement actuel comme débat. Là. Oui. Du moment qu'on commence à dire que quelqu'un qui fait exploser quelque chose, c'est un terroriste, et pas un fou ou...
Oui. Tout l'imaginaire associé au terrorisme... vient apporter
Exactement.
Une lourdeur extrême à
Donc
ce
Donc on amène le sens, on construit le sens, puis les gens le reçoivent de cette façon-là ou pas.
Oui, puis le problème aussi, c'est qu'on adhère beaucoup trop facilement aux théories du complot, justement parce que, bon, la version officielle répond pas à tout, répond pas à nos angoisses, répond pas à nos émotions.
Ouais, puis elle donne des réponses satisfaisantes au niveau émotif, souvent, puis comble des vides par des explications irrationnelles. Parce que on le sait, puis tout comme Charles, j'avais 6 ans pendant les attentats, mais c'est quelque chose qui a énormément marqué la mémoire collective. Puis c'est un gros traumatisme de voir ces tours-là, immenses, avec tout le symbolisme qu'elles apportent, être détruites. C'est quelque chose d'impossible à imaginer, à concevoir. Donc, vraiment, on va chercher des explications qui sont plus irrationnelles à ce moment-là, parce que c'est beaucoup plus satisfaisant de justifier des horreurs ou des atrocités en remettant la responsabilité sur un groupe tout-puissant et machiavélique.
Ouais, puis on pourrait même faire un petit lien ici avec la religion, un groupe tout-puissant, un être tout-puissant.
Oui, disons que les humains aiment avoir des réponses claires à leurs questions. C'est tout ce que je vais dire à ce sujet.
On n'entrera pas dans ce débat-là. Mais c'est ça. En plus, il est vraiment difficile de convaincre quelqu'un que des théories de ce genre-là sont fausses, parce que les démonstrations et les réfutations qui vont être amenées par des experts ou par des personnes indépendantes vont quand même être vues tout le temps comme des tentatives de la part des groupes concernés d'encore tromper le public. Donc, tout ce qui est études gouvernementales ou informations de grands médias vont être rejetées d'emblée parce qu'elles vont être associées directement au pouvoir établi. Puis il y a beaucoup de médias indépendants, des médias poubelles, là, des médias vraiment mauvais.
Les médias poubelles sont-ils indépendants?
Il y en a des médias poubelles indépendants, génial. Des gens qui pensent faire une guerre. Pour la vérité et contre les élites qui veulent empêcher l'Américain moyen d'avoir ses armes.
Nouvel ordre mondial.
Nouvel ordre mondial. Ben, il y en a comme InfoWars sur YouTube qui sévit, entre autres. Puis vous avez juste à voir le nombre incalculable de vidéos sur YouTube démontrant que le 11 septembre n'a jamais eu lieu et que c'était juste des hologrammes. En tout cas, je vous laisse perdre vos vies à l'écouter ça, mais c'est assez incroyable. Donc maintenant, on va se laisser en chanson sur ces réflexions avec Hold On de Roosevelt. de retour à la faute aux médias en compagnie de votre animateur Émilien Roscanou. Maintenant, pour notre troisième chronique, on s'éloigne un peu plus des théories du complot pour s'en aller vers un sujet tout aussi intéressant qui pourrait être lié aussi aux théories du complot parce qu'on sait, Facebook occupe une place hyper importante dans notre vie. Donc, cette fin de semaine, on apprenait que Facebook avait bloqué la célèbre photo de la petite fille au napalm parce qu'elle respectait pas les règles de la communauté. Évidemment, on la voit nue de face. Les premières protestations sont venues de la Norvège et ensuite plusieurs personnes et groupes connus ont manifesté sur Facebook en publiant cette photo-là en symbole de protestation. Véronique, peux-tu nous expliquer pourquoi est-ce que Facebook avait banni cette photo plus en détail?
C'est exactement pour la raison que tu dis. Pour ceux qui ne connaissent pas la photo de la petite fille au napalm, dans le fond, c'était la photo d'une petite fille qui vient de se faire asperger de napalm durant la guerre du Vietnam. Elle est nue, puis on voit les soldats en arrière-plan. Elle est chargée d'une émotion qui est... Cette photo-là est magnifique. Elle est considérée dans les plus belles photos de... Que les photographes ont pris depuis l'histoire de la photo. Puis Facebook a décidé de la retirer puisque la nudité est interdite sur Facebook.
Puis d'autant plus que là, c'est de la nudité d'enfant.
Exactement, exactement. Bien évidemment, ils sont venus sur leur décision, elle n'est plus bannie. Personnellement, j'étais vraiment pas étonnée en fait que Facebook ait pu faire une erreur de ce genre parce que c'était pas la première fois.
Ben, si ça arrive souvent, comment est-ce que Facebook détermine ce qu'ils doivent censurer ou pas?
Il y a plusieurs types de contenus qui décident de censurer. Ils se basent sur les règles de la communauté Facebook. En 2-3 clics sur Internet, on les trouve super rapidement. Pour faire simple, ils bloquent principalement 1. Les discours haineux, 2. La nudité et 3. La violence et les contenus choquants.
Mais pourquoi est-ce que Donald Trump a encore une page Facebook alors?
Ben, c'est ça. Les
discours,
je vais l'expliquer.
On anticipe trop, là.
C'est parce que c'est grâce au signalement de la part des utilisateurs de la communauté Facebook que les employés de Facebook vont aller voir puis vont dire si un contenu doit être bloqué ou non. C'est donc notre responsabilité à tous de signaler grandement tous les posts de Trump afin qu'ils soient bannis de Facebook.
Mais il y a quand même, tu sais, une part de responsabilité énorme de la part de Facebook parce que je vais l'avouer, là, je suis une des personnes extrêmement désagréables qui va signaler tous les discours haineux. Puis ça m'arrive des fois quand je me trouve drôle de signaler des discours... d'une idéologie différente de la mienne. Évidemment, je m'attends pas à ce que le Parti libéral du Québec soit censuré, mais tout le monde a ses fantasmes.
Justement, tu peux signaler autant que tu veux une personne. On peut décider, là, on se met toute l'UQAM ensemble, puis on va signaler tout en même temps le même poste de Trump, pas nécessairement qu'il va être bloqué, parce que c'est des humains qui déterminent ce qui est bloqué.
Exactement.
Ou non, c'est pas des algorithmes. Donc, ils vont regarder chaque cas, puis ils vont décider est-ce que le contenu, le contexte doit être banni. Mm-hmm. C'est pour ça que dans le cas de la petite fille au napalm, sérieusement, googlez la photo.
Ouais.
Ça prend 3 secondes, puis on se rend compte que c'est pas de la nudité, c'est pas de la pornographie infantile.
Ouais.
Là, c'est une photo magnifique.
Mais à mon sens, moi, comment je l'imagine, là, c'est vraiment quelqu'un l'a signalé, puis la personne qui est aux médias sociaux dans son bureau en Californie connaissait pas la photo, puis était comme « Ah, censuré, bam! »
Oui,
sans
ou bien quelqu'un qui a 12 000 photos à vérifier en une heure,
ouais,
puis fait juste « Ah, oui, nudité X, nudité X, nudité X », puis les bannit très, très simplement comme ça.
Exact.
Oui, exactement. Mais c'est aussi que le processus de si on peut dire, là, si on bannit ou non une photo, c'est très, très, très opaque chez Facebook. Donc oui, on a les règles de la communauté auxquelles on peut se référer, mais dans ce cas-là, c'est opaque, on sait pas pourquoi elle a été bannie. Oui, ça peut être un employé qui en avait juste trop à gérer, mais là encore... Dans ce cas-là, Facebook devrait changer ses façons de faire, puis ça devrait pas être un employé qui doit gérer, tu sais, 10 000 cas par jour.
Mm.
Facebook est le réseau social numéro 1.
Oui,
Facebook a des milliards de trucs générés chaque jour.
Un pouvoir moral hyper important parce que aussitôt qu'ils décident de bannir quelque chose, c'est comme une décision morale qu'ils prennent au nom de tout le monde. Même chose, il y avait eu la grosse polémique autour de bannir les femmes qui allaitent.
Bref, oui. Puis ça, ils ont décidé, dans le fond, sur Facebook, on n'a pas le droit de voir les mamelons féminins parce que c'est les mamelons masculins sont beaucoup moins sexualisés, puis les femmes, on n'a pas le droit de montrer nos mamelons.
Mmh.
Puis après ça, ils décidaient de bannir aussi les photos de femmes qui allaitent. Donc, de bannir une photo d'une femme qui fait manger son enfant. Ouais. Puis, les pro-allaitement se sont révoltés. Ils ont dit « ça n'a pas de bon sens ». Puis là, Facebook a décidé de changer sa politique. Donc, c'est vraiment du cas par cas. Donc, il va arriver quelque chose, les gens vont se révolter, Facebook va revenir par en arrière, changer les règles, les modifier, en retirer, en ajouter et tout.
C'est drôle. C'est curieux.
Non, c'est ça.
Donc, c'est vraiment ça la particularité, c'est que c'est du cas par cas.
Oui, exactement. Puis moi, je trouve que, justement, de la part du réseau social numéro un, c'est du laxisme, puis c'est un manque de rigueur. S'ils veulent pas... parce que je comprends qu'ils peuvent pas mettre des algorithmes qui vont décider si telle ou telle chose va être bannie, parce qu'on s'entend, ça va être le chaos total. Mm-hmm. Mais sinon, mettez plus d'employés, formez-les mieux, donnez-leur le temps de regarder les contenus et tout, là. Ça n'a pas de bon sens, là. Parce qu'il y a des gens qui se font complètement couper, là, leur Facebook, là, complètement débloqués. Ça peut être des artistes, des fois, qui se font complètement couper leur plateforme pour des raisons nébuleuses. Essayez de contacter quelqu'un chez Facebook. Je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, mais c'est impossible.
C'est des décisions arbitraires aux conséquences énormes.
Exact.
Merci beaucoup, Véronique. Donc, c'est tout le temps qu'on avait. Merci beaucoup à Véronique Forêt, Camilla Rodriguez-Sea, ainsi que Charles Lemieux aux chroniques. Vous étiez en compagnie d'Émilien Roscanou, votre animateur, pour cette émission de la photomédia sur choc.ca. Et maintenant, on se quitte en chanson avec Sauce Pois des Frères Cueilleurs.
C'est horrible et des belles mots. Là, mon DJ, elle est bien mort. M'en aller au cases. J'en ai enregistré mon CRM demo. Tu veux que mon mixtape? Il m'en reste plus, mais ça va faire 8 dollars. Pas de bling, nulle part sur mon corps. Mais tu crash boîte sans hang de l'or. Céline Dion, Reine Elizabeth, Diana Krall, Abby Ludacris, Premier ministre Couillard, Chris Paul. Aussi sont condamnés à devoir manger pis take a shit once in a while. Outro, cash à l'album. Mais si t'es fucking mama pis t'es dans la folle. Grosse gang depuis ton narcos. Je vais te payer pour que tu fasses la pause. J'aurais jamais pensé que ça aurait tenu de main. Moi pis mes cousines en train de prendre un bain. Mange la poutine, même le bal matin. Par un moche pute, si je prends ça.
BBC, je l'ai désolé, j'ai un dégât de sauce pois.
Sauce pois,
yeah. BBC, je vais t'entendre au studio, je pense grab un griot.
BBC,
j'ai des gars de pickles, donne-moi deux minutes, please.
BBC, sauce pois.
Si je mange le gras, without a doubt, le griot, toi go in my mouth. Problème gastrique versus satisfaction. Je sais pas pour toi, but I got to have it. J'veux les mêmes conditions d'y qu'un échal. Moi aussi j'veux un convertible house. Lambo, un yacht pis une take X-Gauss. Un compte de banque plein pour mes dépenses. Pour l'instant j'suis stock dans file à attendre. M'en prendre un gros joint à 650. Pouf ça dans le bac avec une fille de 50. J'en rue, le business augmente.
BBC,
c'est dans mes discrets, m'aider. Genre de choses qui arrivent, aider. Prends ta fourche, j'suis déla planté. Prends une bouche, trick.
BBC,
t'es capable de faire mon pic, les mains sans fait que faut que j'colle l'eau.
Fuck! Faudrait que tu montres comment faire une sauce foie.
Ah, c'est... Mais don't be screaming.
BBC,
yeah. Genre de choses qui arrivent.
Aidez, big please.
Aidez. Prends ta fourche, viens la planter.
BBC,
prends une bouche, tricoler.
Sauce foie.
Yeah. Qu'est-ce que tu voulais, man, BBC? Best believe que Philippe pour vous condamner.
Une jitaïque de Brooklyn qui avait bien des contacts dans le monde. Mm-hmm. Et avec elle, moi, je me suis retrouvée à enregistrer avec les Wheelers. Et je me rappelle de Sonny Ben, tout ce monde-là. Et moi, mon phrasé n'était pas du tout...